Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ça y est, il est candidat.
C'est fait, Gabriel Attal est candidat.
Candidature à l'élection présidentielle.
C'est officiel, Gabriel Attal vient de...
C'est officiel, Gabriel Attal.
C'est officiel, Gabriel Attal vient de...
C'est officiel.
C'est officiel, Gabriel Attal.
Ça y est, c'est officiel, Gabriel Attal vient d'annoncer...
C'est officiel, Gabriel Attal vient d'annoncer sa candidature.
Quelle surprise, surprenamment surprenante. Toute la crème du macroniste a donc défilé comme une armée de bots sous IA pour annoncer une information que tout le monde savait déjà, la candidature de Gabriel Attal. Des noms de prestige, comme Ambroise Méjean, Paul Midi, Louis Roquebert et j'en passe, avec une telle équipe. Édouard Philippe a du souci à se faire. Et on trouve également Prisca Thévenot, l'ancienne porte-parole du gouvernement qui s'était fait remettre en place par un certain Tom Benoît il y a quelques années.
Nous avons plus de 3 000 milliards de dettes en France. Qui achète cette dette? Qui sont les acheteurs des titres obligataires?
Mais attendez, je pense qu'on va, on va regarder aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, oui. Nous avons un enjeu de dette. Nous avons un enjeu de la dette. Mais regardons aussi de quelle dette parlons-nous.
Non, mais la dette publique, la dette qui est émise par l'État, qui l'achète? Qui sont les prêteurs? Des fonds étrangers? La BCE?
On lève de la dette, mais ça, vous le savez très bien.
Non, mais Prisca Thévenot, vous êtes porte-parole du gouvernement. Oui. Nous émettons 284 milliards de titres obligataires cette année.
Oui.
L'agence France Trésor va devoir trouver des preneurs pour cette dette.
Oui.
Qui sont-ils? Des fonds chinois, américains? La Banque Centrale?
Encore une fois, je pense que sur ce sujet-là, nous verrons. Maintenant, l'enjeu que nous avons à regarder... Non, je pense qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas lever les yeux au ciel.
Prisca Thévenot, Gabriel Attal et toute la clique devront donc le sourire aux lèvres défendre un bilan catastrophique, pour ne pas dire dystopique, sans taper trop fort. Histoire de nous faire croire qu'ils n'étaient pas aux manettes ces 10 dernières années, tout en prétendant avoir bien géré le pays lorsqu'ils étaient en poste. Une gymnastique à s'arracher les cheveux, qui masque une réalité toute simple. Macron est plus que jamais détesté.
Il va se passer beaucoup de choses.
Joseph Aucourlian, le président du Racing Club de Lens.
Voilà, et que ce soit pour un match de foot, de rugby, une visite dans une bourgade ou à l'étranger, les sifflets ne sont jamais bien loin. Et Gabriel Attal tient visiblement à en hériter. Même charisme d'huître fermé, même prestance fade, même suffisance et même mépris. Souvenons-nous de l'époque où ces amateurs revendiqués assumaient le fait de nous emmerder lors du Covid.
On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis 2 ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Alors moi, je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement. Et nous continuerons à les dire clairement. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français.
Du Covid jusqu'à l'Ukraine, en passant par l'Iran, tout aura été prétexte à nous emmerder et à nous ruiner encore un peu plus. Les prix à la pompe ne sont que la face émergée de cet iceberg de dettes qui détruit le pays à petit feu. Le député UDR, Éric Michou, a poussé une sainte et belle gueulante.
2,40€ le litre de carburant en moyenne, dont 1,44€ de taxes. À ce niveau-là, ce n'est pas une taxe, c'est un braquage. Le carburant s'installe comme un impôt, sans débat, sans vote, sans démocratie. Maintenant, manger ou conduire, il faut choisir. C'est la réalité du quotidien pour les Français, et notamment pour les infirmières à domicile, pour les taxis, pour les artisans, pour les transporteurs routiers, pour les travailleurs en général. Pour les territoires ruraux, c'est la double peine. Sans voiture, vous ne pouvez pas vivre. Après, les ZFE, c'est une nouvelle assignation à résidence. Écoutez la colère qui gronde. Ne soyez pas indifférents à la souffrance du peuple de France. Écoutez les entrepreneurs. Écoutez la France qui travaille. Ils sont déjà saignés par vos impôts. Ils subissent de plein fouet votre hausse des carburants. réservoir à sec, frigo à sec, salaire à sec, économie à sec, la France est à sec par votre aveuglement.
Manger ou conduire, la formule est à retenir.
Ah, exactement, elle est parfaite. Oui, oui. Et le député évoquait ces ZFE, qui ont récemment fait leur retour grâce aux manœuvres du Conseil constitutionnel, avec la complicité active d'Emmanuel Macron. Philippe de Villiers révèle cette manipulation sur CNews.
Vous pouvez vérifier ce que je dis. C'est facile à vérifier. Mais on peut demander aussi à Emmanuel Macron de démentir, si ce n'est pas vrai ce que je dis. Donc, Emmanuel Macron a appelé Richard Ferrand, discrètement, et il lui a dit, écoute, ça m'embête, parce que si tu casses pas cet amendement, ce cavalier législatif, comme on dit, on va devoir payer 4 milliards à l'Europe. Et j'arrive à la République des commissaires. La République des juges vient au secours de la République des commissaires. Donc non seulement la République des juges dévalue et destitue le pouvoir politique, ce qu'il en reste, mais la République des juges travaille pour la République des commissaires. La République des commissaires, c'est Bruxelles. On a promis dans le plan de relance européen de faire les ZFE, et si jamais on ne s'exécute pas, il faudra payer une amende. Il faudra rembourser 4 milliards d'euros.
Tout ce système verrouillé par des gens qui se font passer pour neutres et indépendants, tout en manigançant une politique commune qui cible toujours les plus pauvres, les plus démunis, en d'autres termes les gueux, ne se laissera pas destituer comme ça. Ils feront tout pour rester en poste, jusqu'à possiblement interférer directement sur les élections, comme le dénonce Florian Philippot.
Tenez-vous bien, en catimini, Macron vient de se faire voter une loi qui permettra, s'il le souhaite, de manipuler, truquer, voire annuler l'élection présidentielle. Et figurez-vous que enfin, des médias commencent à sérieusement se poser des questions. Les Patriotes ont été lanceurs d'alerte puisque début avril, j'avais fait une vidéo d'alerte sur ce sujet, mais vous allez voir qu'on a beaucoup d'informations depuis. Il n'est pas clos, car des députés traîtres l'ont voté, vous allez voir lesquels, à l'Assemblée nationale, mais ça va aller au Sénat début juin, c'est pas du tout terminé, ça reviendra ensuite à l'Assemblée nationale. Donc il y a possibilité de bloquer tout ça. Et donc cette vidéo va être particulièrement importante. C'est en plus un nouveau régime de l'exception, d'état d'urgence, complètement liberticide, qui voudrait être mis en place. Les autres formations politiques, certaines autres, et la presse ont été longs au démarrage, à l'allumage. Nous avons tout de suite perçu les choses. Bon, mais maintenant il faut se mobiliser tous.
Et Florian Philippot nous en dit un peu plus sur cette loi votée en catimini et qui n'a pas fait grand bruit dans la presse. C'est le moins qu'on puisse dire.
Macron vient de se faire voter une loi sur mesure de trucage, voire d'annulation de l'élection présidentielle. Le vote, dépêche AFP ce 18 mai. Le titre, c'est quoi l'état d'alerte de sécurité nationale? Possible régime d'exception adopté discrètement par les députés. En fait, c'est un article, c'est l'article 21. D'une loi qui vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée nationale, qui est la loi de programmation militaire, la LPM. Là, c'est l'article 21, qui a été approuvé effectivement ce 18 mai dans la loi de programmation 2024-2030, qui elle-même a été adoptée en première lecture le 19 mai, le lendemain globalement. Cet article 21, donc approuvé le 18 mai par, regardez le nombre de députés qui étaient présents. Au total, 81 ont voté. 62 pour, 81 sur 577. Hein. 62 pour, 19 contre. Alors dans les pour, bon, les macronistes bien sûr, mais aussi les LR et les RN. Énième trahison qui s'ajoute à toutes les autres. Alors, et enfin les médias et la presse française enfin commencent à se poser des questions. Par exemple, l'article de Libération ce 19 mai, je vais vous citer un extrait. Fallait-il vraiment faire voter en quelques semaines la création d'un nouvel état d'exception, dérogatoire au droit commun qui sera activé par simple décret en cas de menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale, ce qui est le terme officiel, c'est-à-dire extrêmement flou et arbitraire, hein, qui définit ce qui est une menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale. Bon. Et ce sans consultation du Parlement durant 2 mois.
Et pour revenir à Gabriel Attal, nouveau poulain du système, sa faculté à s'inspirer de son maître est impressionnante. Même dans sa communication numérique, il se fait prendre en flagrant délit d'entourloupe, comme le dénonce notre chroniqueur Alexis Poulain.
Ça, mais Gabriel Attal, c'est pire que ce que je pensais. Parce que là, on apprend que quand même, le mec est allé voler les comptes de soutien de Macron 2022 sur X et sur Instagram pour les transformer en comptes de soutien Gabriel Attal président. sans prévenir personne. Hein, c'est 50 000 bots, enfin, c'est des faux comptes, hein, c'est des faux macronistes. Mais quand même, ça dit tout quand même du mec, quoi. Le mec est une fraude, mais il va jusqu'à arnaquer son mentor. Non, tiens, je te prends tes vieux soutiens, là, ils servent plus à rien. On va les mettre sur mon compte, c'est peinard. Quelle petite... je peux pas dire le mot, parce que j'imagine que ça va être discours de haine et tout, mais qui... quand même, hein, c'est... Chapeau mon Gabi, t'es fort.
Pas très étonnant finalement. Hein. En fait, et comme tout le monde le sait, Gabriel Attal est une copie totale d'Emmanuel Macron. Et pour l'illustrer, un internaute a fait un montage tout simplement génial en opposant Emmanuel Macron il y a 10 ans, quand il officialisait sa candidature, et Gabriel Attal sur TF1 samedi dernier. Écoutez, c'est très parlant.
Bonsoir Emmanuel Macron.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Bonsoir Gabriel Attal.
Bonsoir Jean-Baptiste
Merci d'être avec nous.
Je suis un homme libre.
C'est en homme libre que je me présente dans cette élection.
Ce ne sont pas des sujets personnels.
Moi, mon sujet, c'est pas les personnes.
J'ai été, pendant un peu moins de 4 ans, banquier.
J'ai été ministre pendant 6 ans.
J'y ai appris des choses utiles pour être ministre ensuite de l'économie et aujourd'hui pour prétendre présider.
C'est utile d'avoir de l'expérience quand on aspire à être président de la République.
Le monde est en train de changer.
Le monde de 2027, il n'a rien à voir avec le monde de 2017.
La révolution numérique...
En 2017, il n'y avait pas l'intelligence artificielle.
La révolution numérique est en train de changer très profondément notre façon de vivre.
Donc tout doit changer aujourd'hui. Et c'est possible de tout changer à condition de prendre des décisions radicales.
Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est proposer des solutions radicales.
Je proposerais de changer assez radicalement notre système.
Des choix plus radicaux.
Des décisions radicales.
Des solutions beaucoup plus radicales.
Et donc je veux débloquer l'avenir de notre pays.
Adopter des méthodes qui permettent justement de débloquer la France.
Merci Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Gabriel Attal.
En fait, la présidentielle ressemble à une séance d'hypnose à échelle nationale où l'on nous présente des clones qui font tout pour se démarquer de leurs prédécesseurs. Va-t-on encore se laisser berner par cet énième épisode du jeune candidat dynamique ? Réponse dans un an.
Réponse dans un an, et on espère que, évidemment, on garde espoir là-dessus et on espère que finalement on ne va pas forcément... laisser les pitres
un petit peu trop dicter ça,
mais en tout cas merci de les tourner en dérision, ils ne méritent pas moins. Merci beaucoup Louis Rigaudière, et
merci à
la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Van Lierde. Bonjour Xavier. Alors aujourd'hui, vous vouliez revenir donc sur les récents événements qui sont arrivés à La Baule. La Baule, donc ville évidemment chic, station balnéaire de Loire-Atlantique, si je ne m'abuse, qui est connue pour normalement son calme, sa tranquillité. Quiétude qui a été un petit peu perturbée.
Oui Alexandre, je voulais revenir sur ces événements parce que, comme vous l'avez dit, ils ne sont pas seulement symptomatiques de la façon dont une immigration massive, incontrôlée, un multiculturalisme débridé et un laxisme sécuritaire coupable finissent par littéralement pourrir la vie des Français jusque dans les recoins jadis réputés les plus paisibles du pays, mais aussi pour souligner à quel point ces événements révèlent un coût caché de ces divers laxismes et aussi la façon dont ils donnent naissance à une véritable économie de la sécurité et de la tranquillité qui contribue à plomber non seulement les comptes publics de la nation, mais aussi en réalité le pouvoir d'achat de chaque Français. Alors, l'économie de la sécurité et de la tranquillité, c'est bien sûr d'abord de la dépense publique. Les dépenses occasionnées par ce type de comportement et leur multiplication est bien sûr d'abord une dépense assurée par l'État. D'ailleurs, vous l'avez vu, à la suite des rixes et incivilités commis ce week-end à La Baule, eh bien, par des racailles donc venues des quartiers sensibles de Nantes, le maire de La Baule a aussitôt demandé au ministère de l'Intérieur de déployer davantage d'effectifs de police nationale et sur des laps de temps plus importants. Il y avait des renforts de police à La Baule durant l'été. Désormais, il réclame, face à l'afflux de ces populations au comportement incivique, que des forces de police nationale viennent renforcer sa police municipale, y compris les week-ends. Et tout cela n'est évidemment pas gratuit. Et d'ailleurs, il faut donc y ajouter le coût des polices municipales. Mmh. À La Baule, il y a 38 policiers municipaux. Cela non plus n'est pas gratuit. Chaque policier municipal représente pour les municipalités une dépense annuelle de 45 à 70 000 euros. Pour La Baule, cela représente donc un budget annuel d'environ 2 millions d'euros. À Marseille, pour information, un projet d'augmentation de 350 policiers municipaux est évalué à environ 19 millions d'euros par an pour les communes La lutte contre l'insécurité et les incivilités représente donc, comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Mais allez savoir pourquoi, elles sont de plus en plus nombreuses à y engloutir pourtant une part substantielle de leur budget. En 1984, on comptait 1750 communes dotées d'une police municipale. Aujourd'hui, elles sont un peu plus de 4600 à consentir à cet effort, et les effectifs ont par ailleurs explosé. En 1984, on comptait, à l'échelle nationale, tenez-vous bien, 5600 policiers municipaux. Ils sont aujourd'hui plus de 30 000. Enfin, leurs missions ont bien évidemment aussi évolué avec les mœurs, plutôt la désagrégation des mœurs et des comportements, puisque désormais, leur rôle ne consiste plus à aller déposer un arrêté municipal ou quelques contredanses pour des gens qui seraient mal garés, mais à lutter contre les nuisances, les occupations d'espaces publics, les rodéos, les trafics de rue, les violences urbaines, les conflits de voisinage, les atteintes à la tranquillité publique. C'est pas exactement un métier de tout repos, si bien d'ailleurs que, je ne sais pas si, enfin, les gens de mon âge ont vu la physionomie des policiers municipaux considérablement évoluer. Avant, c'était des sortes de pervenches qui déposaient, c'était très agaçant, qui déposaient des contredanses sur les pare-brises. Et désormais, ils ressemblent plutôt à des policiers de la BAC qui sont équipés, entraînés comme des policiers nationaux, alors que c'était rarissime autrefois. Eh bien, 77% d'entre eux sont désormais armés. Mmh. Et ce n'est pas tout. Il faut ajouter à cet effort le recours de plus en plus fréquent à la vidéosurveillance. En 2023, les polices municipales françaises avaient accès à environ 150 000 caméras de vidéoprotection, donc il y a 3 ans, contre 90 000 en 2021. 2 ans auparavant, une hausse de 70% du nombre de caméras gérées par les municipalités en 2 ans. La vidéosurveillance est en fait devenue un équipement désormais quasi standard des politiques municipales de sécurité, y compris, et c'est l'un des points importants, dans les petites communes. C'est vrai d'ailleurs que la CNIL avait réalisé une étude dont le titre était significativement « Les caméras au village » et dans lequel l'organisme observait que les petites communes rurales, étant à leur tour frappées par l'insécurité et les incivilités, elles recouraient à la vidéosurveillance pour lutter contre les cambriolages, les dépôts sauvages, les incivilités et les trafics en tout genre dans l'espace public. Mais le phénomène le plus frappant de ces commis de la sécurité et de la tranquillité est son extension aux simples citoyens. Et en quelque sorte ici, une sorte de ruissellement qui, celui-ci, fonctionne pour de bon. À mesure que l'État se révèle incapable d'assurer la sécurité et la quiétude des citoyens, les communes s'en sont chargées pour suppléer à cette lacune. Mais comme elles-mêmes ne parviennent pas davantage à juguler le phénomène, les simples citoyens sont à leur tour contraints de prendre des mesures et d'adopter des nouveaux comportements pour s'en protéger. Ainsi, le marché de la sécurité privée, télésurveillance, gardiennage, contrôle d'accès, connaît un véritable boom avec une croissance d'environ 8% par an depuis une décennie. Le groupe Sector Alarme, qui est l'un des leaders du marché des alarmes et dispositifs de télésurveillance pour résidences privées, évoquait ainsi une croissance de 30 à 40% en 2025. Les activités de gardiennage, surveillance humaine, ronde et intervention représentent pour leur part 7,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Forte progression aussi, car vous l'avez bien compris, il n'est plus possible d'organiser un événement public ou sportif, de gérer un lieu public, une piscine, une base de loisirs, un parc à thème, sans recourir à ces nouveaux cerbères, sous peine de voir les barbares y déferler et effrayer les vacanciers, les clients et toutes les familles paisibles. Mais un autre phénomène permet de prendre la mesure de cette tendance et de constater à quel point, en réalité, au-delà de représenter un marché, cette situation modifie jusqu'à nos façons de vivre. Et c'est le développement exponentiel des résidences dites fermées, une sorte de déclinaison française, des résidences barricadées qui existaient depuis des décennies dans des pays réputés très peu sûrs ou avec de forts niveaux de violence, comme les États-Unis d'Amérique, le Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud, et bien sûr l'Afrique du Sud. En gros, ce sont des résidences avec clôture, contrôle d'accès, vidéosurveillance, SAS d'entrée, digicode, etc. Le neuf, le logement neuf, les projets immobiliers sont particulièrement concernés et certaines zones sont également particulièrement concernées et nous donnent bien évidemment la véritable cause de ce succès. Donc à Marseille, qui est la ville la plus étudiée sur le sujet et pour cause, une étude universitaire a montré qu'entre 1993 et 2014, 62% des nouvelles résidences construites l'étaient sous cette forme de résidence fermée. Autre point intéressant, le phénomène a toujours existé, mais il était cantonné à des résidences dites de luxe dans des quartiers riches, et désormais, il touche les classes moyennes et le logement collectif courant. En réalité, comme le vivre ensemble ne fonctionne pas, qu'il est souvent pénible à vivre et même souvent dangereux, eh bien, les Français sont progressivement contraints de se claquemurer au prix d'investissements souvent lourds, car bien entendu, une résidence telle que celle-là est plus chère à réaliser et bien plus chère à louer, et encore plus s'il s'agit d'y acheter un logement. D'autant qu'il faut y ajouter d'autres stratégies qu'on appelle stratégies d'évitement. Il y a désormais une forme d'économie de l'évitement des problèmes et qui va souvent de pair, là aussi, avec des dépenses ou des investissements assez lourds. La Baule, les événements de la Baule sont de ce point de vue-là assez caractéristiques, car ils signifient une extension de phénomènes qu'on a déjà connus sur le littoral méditerranéen, notamment entre Nice et Marseille, avec le développement, plutôt le succès croissant des plages privées. Autrefois, les familles pouvaient profiter gratuitement du magnifique littoral français, aller sur des plages publiques, et désormais, eh bien, pour trouver la tranquillité qui était celle offerte gratuitement à tout un chacun, désormais, elles doivent plutôt se replier vers des plages privées avec accès payant, explicitement ou implicitement. C'est-à-dire des plages où on est obligé, par exemple, de louer un transat ou de payer une consommation à un prix souvent exorbitant. Il y a actuellement 1500 concessions de plages en France, et grâce à la loi littorale, ce chiffre devrait rester stable, mais leur fréquentation ne cesse d'augmenter. En 2023, leur fréquentation avait augmenté de 28% par rapport à 2019, avant la crise du Covid. Et ce phénomène d'évitement concerne bien évidemment d'autres biens ou prestations qui étaient autrefois gratuits ou peu onéreux. On connaît tous ces comportements, mais on en perd la conscience tant ils font désormais partie de nos habitudes les plus spontanées. Le choix de l'école privée plutôt que les écoles publiques, qui n'est pas seulement lié à des considérations confessionnelles, comme chacun l'a bien compris. La piscine individuelle plutôt que la piscine publique. La voiture individuelle plutôt que les transports en commun. Le choix de zones immobilières surcotées qui est réputée plus sûre, etc., etc. Prix globe, on pourrait rajouter participer au banquet du canon français pour la modique somme de 80 euros, je crois, plutôt que d'aller à la fête du village, parce qu'à la fête du village, on risque bien évidemment davantage de faire de mauvaises rencontres, voire de se prendre un coup de couteau. Alors prix globalement, cela témoigne en réalité d'une situation assez triste où la sécurité et même la tranquillité, la simple quiétude deviennent des biens de consommation. Des biens de consommation qui exigent un investissement. Tout ce qui était de l'ordre de la gratuité devient un marché à mesure que l'insécurité progresse en raison du laxisme migratoire et sécuritaire. Et pour conclure, je voudrais citer Renaud Camus, qui avait très bien perçu le phénomène et qui tordait le cou à cette idée assez pénible, selon laquelle, face à ces situations, la bonne solution consistait justement à toujours trouver des solutions techniques ou sécuritaires. Plus de policiers, plus de vidéosurveillance, des résidences surveillées, des zones protégées, etc. Donc Renaud Camus, qui a un certain sens de la civilisation et de l'art de vivre, écrivait ceci. Nous ne voulons pas plus de prisons, plus de caméras de surveillance, plus de gardiens pour les églises, les synagogues, les hôpitaux. Nous ne voulons pas sécuriser l'enfer, nous voulons le retour de la civilisation.
C'est ça, et d'ailleurs, nous voulons le retour au paradis, je crois. Il a aussi écrit. Merci beaucoup, Xavier Van Lierde, pour cette excellente analyse. En fait, tout ça représente, on le comprend, pas seulement pour l'État, mais aussi pour les citoyens, une sorte de coup caché de l'immigration et de l'insécurité qui n'a jamais été en réalité tout à fait chiffré. Le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est que finalement, ce qu'on comprend, c'est que on a vraiment intériorisé la nécessité de toutes ces dépenses. Et aujourd'hui, quand on pense l'insécurité, on la pense exclusivement en, pour faire très simple, est-ce que je vais me prendre un coup de couteau, est-ce que je vais me faire voler, est-ce que je vais me faire violer pour une femme, etc. On la pense uniquement en termes de, d'agression et, ou peut-être d'atteinte au bien, alors qu'en fait, on se rend compte qu'à partir du moment où la société de confiance disparaît, eh bien en fait, on est obligé de se tourner vers des solutions marchandes pour simplement exercer en fait une vie normale.
Exactement. Marchande ou de solutions qui relevaient autrefois plutôt des États autoritaires, voire totalitaires. Mmh. Donc, c'est-à-dire que dès lors que la sociabilité n'est effectivement plus la bonne sociabilité, les rapports entre les gens ne sont plus régis par des règles communes qui relèvent des mœurs, de la culture, par la courtoisie par exemple, eh bien, il est nécessaire de les remplacer par une multitude de règles, de contrôles, d'instruments de contrainte, qui en réalité, après, vont malheureusement s'appliquer à l'ensemble de la population et pas seulement à ceux qu'elle visait. Bah, pour résumer, on pourrait dire d'une formule, hein, faute de contrôler les frontières et de faire primer notre culture, eh bien, on se retrouve avec une multitude de petites frontières intérieures, ouais, pour se protéger, avec un aspect d'autant plus scandaleux que, finalement, cette tranquillité qui était un commun, comme diraient les gens de gauche, quelque chose de gratuit, appartenant à tous, eh bien, devient une prestation... une prestation privée qui nécessite des investissements et qui donc n'est pas accessible à tous. Mmh. Dans une France pleine de quiétude, faire partie des classes moyennes inférieures, décider que après tout, on ne veut par exemple pas perdre sa vie à la gagner, comme on disait en mai 68, n'est plus possible en réalité. Ouais. Car le prix à payer d'une chute dans l'échelle sociale, eh bien, c'est de s'exposer à de véritables dangers ou à de véritables désagréments en tout cas. Alors que dans un pays d'une grande quiétude, eh bien, le problème ne se poserait pas. Et je pense par exemple que quand on voit que les professeurs, ça aussi c'est un coup caché, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fonctionne comme un corrosif qui détruit la société entière. Un professeur aujourd'hui, ça n'a jamais été quelqu'un qui était extrêmement bien payé. Ouais. Bon, de surcroît, comparativement aux autres professions, désormais, ils sont encore moins bien payés. Mais en plus, ils vont se retrouver à la fois dans leur profession, mais aussi dans leur vie de tous les jours, en raison du fait qu'avec le salaire qu'ils ont, ils ne peuvent plus vivre, par exemple, à Paris intramuros, mais vont être obligés de rejoindre des zones avec beaucoup moins de quiétude. Eh bien, cette profession ne peut plus être attractive, en réalité. Quelqu'un qui a la capacité de passer une agrégation ou un CAPES va plutôt devenir manager de façon à pouvoir mettre sa famille à l'abri. Vous voyez, alors que dans une société pleine de confiance mutuelle, comme vous l'avez dit, ou de quiétude, eh bien, il pourrait choisir par vocation de devenir professeur sans s'exposer à une multitude de risques. Enfin, c'est presque de l'ordre de... Aujourd'hui, choisir ce type de vocation et installer sa famille, du coup, dans une zone dangereuse, c'est presque de l'irresponsabilité. Voilà les conséquences de ce délitement.
Et puis même, d'une certaine façon, on pourrait aussi ajouter que ça a détruit une forme d'horizontalité qui existait dans la société, dans le sens où, en fait, on pouvait tout à fait quand on avait un problème avec quelqu'un, auparavant, il était sans doute beaucoup plus simple de le résoudre directement avec cette personne, que ce soit, j'en sais rien, mais de la musique trop forte en extérieur, que ce soit une querelle de voisinage ou d'autres problèmes dans le genre. Maintenant, on voit un recours beaucoup plus automatique à la verticalité et donc par exemple à l'État, à la police en général. Mais je crois que Richard de Sèze nous prépare quelques remarques et questions.
Ni plus ni moins pertinentes que les vôtres. Je voudrais revenir en fait avec Xavier Van Lierde sur le refus de l'État. Parce que fondamentalement, c'est un choix politique de la part de l'État central que de se retirer de la police des territoires. On voit que le sous-investissement chronique dans les commissariats qui ont le statut de police nationale dans l'ensemble des provinces, et au contraire, effectivement, un ensemble de lois qui redélèguent en fait aux municipalités la police. Donc pourquoi l'État a-t-il décidé à un moment donné, et quand on en parle avec les policiers, ça fait partie de leurs interrogations et ça ne fait pas partie de leurs réponses, pourquoi l'État a-t-il décidé en fait qu'il ne devait plus assurer que la grande sécurité des grandes métropoles et ensuite laisser le reste du territoire à l'abandon, avec d'ailleurs les conséquences immédiates de l'explosion du trafic de drogue dans les campagnes, qui a surpris tout le monde, mais évidemment s'il n'y a plus personne pour faire respecter l'ordre, ça paraît légitime. Et aussi une deuxième conséquence dont vous n'avez pas parlé, me semble-t-il, c'est la manière dont les quartiers perdus de la République, donc l'expression gouvernementale, nationale, du ministère de l'Intérieur, etc., sont en fait en train de réinventer elle-même une espèce de police citoyenne avec les grands frères qui font régner l'ordre de telle sorte que pendant l'été, ils ouvrent des piscines et ils offrent des cahiers aux enfants. On se retrouve avec deux ordres municipaux qui règnent, l'ordre des voyous et l'ordre des municipalités, qui reste quand même considérablement inférieur à ce qu'il sera en droit d'attendre si on a envie d'assurer la tranquillité.
Pourquoi, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a quand même un changement de nature du personnel politique. Hein. Enfin, ça nous éloigne un peu du sujet, mais je pense que la disparition du député-maire est une catastrophe. C'est-à-dire que la sociologie quand même de l'Assemblée nationale, à part peut-être chez les députés du Rassemblement national, sont essentiellement des gens issus des métropoles, des CSP+, issus des métropoles, alors qu'auparavant, la carrière politique consistait à se tailler un fief en région, comme disent ces gens-là, devenir d'abord maire, ensuite député, et donc... Voilà, je pense que on le voit aussi avec la décision dont vous avez parlé ce matin de rétablir les ZFE. Il y a une obsession métropolitaine de notre personnel. Autre décision qui le prouve, c'est la façon dont ce pouvoir central et métropolitain envoie jusque dans les provinces les plus reculées le surplus d'immigration, les oui. migrants, les mineurs non accompagnés, dans des centres ouverts de force, sans demander l'avis des maires ou contre l'avis des maires, jusque dans les villages les plus reculés. Donc évidemment, ça alimente un sentiment d'abandon très
fort.
Oui,
c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, finalement, ce qui est fascinant, c'est que cette ségrégation, elle se fait que dans un sens, dans le sens où effectivement, je prends l'exemple des ZFE, hein, mais où ça devient beaucoup plus difficile pour les personnes qui vivent à la campagne d'aller en ville. D'ailleurs, pourquoi doivent-ils venir à la campagne? Parce qu'il y a un abandon des services sociaux dans, justement, les petites villes de province. J'ajoute que, évidemment, des constructions destruction du démantèlement du tissu social avec évidemment la disparition ça va du boulanger jusqu'à la poste, jusqu'à la petite gare SNCF, jusqu'à tout ça, et en réalité ce qui force d'une certaine façon les personnes qui vivent dans les petites villes de province à devoir aller dans de plus grandes villes où elles peuvent pas avoir accès pour de nombreuses raisons. Les migrants vont dans l'autre sens, eux.
Oui, les migrants vont dans l'autre sens, on les incite. Enfin, ce que l'affaire de la Baule montre aussi, c'est que croire qu'avec des moyens, on va pouvoir échapper à cette vague d'incivilité, d'insécurité et de dégradation du cadre de vie qu'implique une immigration massive et un laxisme judiciaire très fort, est une illusion totale. Mmh. C'était le début de notre propos. La Baule, autrefois commune riche du littoral, réputée pour sa quiétude, eh bien, ne l'est plus. Donc, il va falloir que, effectivement, qu'un certain nombre de gens de classe sociale supérieure qui pensaient, grâce à leurs investissements, à leur porte-monnaie, à la capacité qu'ils ont de choisir plus facilement leur lieu de résidence, ils pensaient pouvoir échapper à tout ça et laisser les désagréments, toutes les externalités négatives de l'immigration à d'autres, réalisent que ce ne sera pas le cas. Ils vont être rattrapés, ils commencent à être rattrapés. Je suis frappé. Récemment, on parlait du 15e arrondissement sur Twitter avec des amis, et je disais que moi, j'avais connu le 15e arrondissement comme un arrondissement de classe moyenne, plutôt familiale. On disait que c'était l'arrondissement des familles, et même des jeunes familles, car l'immobilier est encore relativement accessible, en tout cas en location. Et au fil de la conversation, des gens qui habitaient le 15e qui disaient « Ah mais non, mais il ne faut pas généraliser, hein. Ça dépend des rues. » C'est-à-dire que voilà, au début, on a un arrondissement qui est plutôt préservé, oui, et dans lequel il y a de la quiétude, une vie presque provinciale. 20 ans plus tard, on dit « Ah non, 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 il ne faut pas généraliser, moi je suis dans une bonne rue. Oui. » Et puis l'étape suivante, c'est « Moi je suis dans une bonne résidence. » Et après, dans la résidence, c'est là « Non, moi je suis dans le bon palier. » En réalité, nous serons tous rattrapés de ce phénomène. Dès lors qu'on est face à un processus de submersion qui se produit en plus dans un pays en voie de déclassement et d'appauvrissement, personne n'y échappera. Et donc, je crois que c'est ça que voulait dire Renaud Camus. C'est-à-dire que la civilisation, eh bien, c'est d'essayer de retrouver, de redevenir maître chez nous. Et donc, ça implique des décisions qui sont de politique nationale et pas que une addition de petites mesures de sauve-qui-peut personnelles. Assez égoïste.
Mais justement, c'est un petit peu ce qu'on appelle, alors en bon anglais, excusez-moi, ça n'a pas été bien traduit, mais le white flight, d'une certaine façon, où on observe notamment aux États-Unis qu'on voit beaucoup de Californiens qui ont plus ou moins saccagé leur état, partir désormais au Texas, où ils vont se rendre par exemple à Austin, ville qui est devenue de gauche et qui en fait finalement qu'ils arrivent à pourrir, et finalement ils semblent errer de ville en ville, la gauche semble errer de ville en ville en détruisant à chaque fois, et en fait en reproduisant à chaque fois le même schéma un petit peu partout. Mais vous avez raison sur un point, c'est que aujourd'hui les politiques municipales ne suffisent plus. Après, est-ce que la solution, c'est de forcément tout déléguer à l'État central, et est-ce que c'est pas aussi en complément de l'État central de laisser les communes...
Il faut reprendre le contrôle de l'État central. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit actuellement, ce n'est pas parce que l'État serait trop faible. L'État est très très fort. Ouais. Il arrive à imposer des centres de mineurs isolés à des communes. Donc il utilise sa force. Il sait se montrer régalien, l'État. Mais sauf qu'il utilise toute cette force contre son propre peuple. C'est ça qui est absolument inouï. Quand il s'agit de casser la gueule aux gilets jaunes,
il n'y a pas de problème de faiblesse.
Il retrouve des muscles. Hein. Des muscles. En revanche, dans d'autres circonstances, eh bien, ça ne se produit jamais. Non, non, je pense vraiment que cet État travaille contre son propre peuple. La loi SRU qui oblige à une dissémination soi-disant mixité sociale qui n'est pas une. Tout ça, ce sont des noms qui sont évidemment complètement pipés comme quartier populaire, qui n'ont évidemment rien de populaire. Donc loi SRU, dissémination des mineurs jusque dans les villages, et ensuite on s'étonne que la carte du trafic de drogue s'étende jusque dans les plus petites villes et les plus petits villages partout en France. Enfin, je crois qu'il faut être aveugle pour ne pas comprendre ce qui se passe, et l'État n'est pas seulement coupable de faiblesse, il est coupable de poursuivre probablement un projet de changement de peuple. Enfin, je pense sincèrement que Jean-Luc Mélenchon exprime tout haut ce que beaucoup de macroniens idéologues pensent tout bas.
Voilà. Richard de Sèze.
Merci de nous avoir désespéré un peu plus avec Mélenchon comme vigie du macronisme, et donc ce qui nous laisse d'ailleurs sans illusion sur la manière dont chacun appellera à voter en 2027. Il y a quand même quelque chose aussi que vous n'avez pas souligné, et pardonnez-moi, je ne fais pas seulement de m'acharner à trouver les failles de votre raisonnement.
Non, vous ne faites pas semblant, effectivement.
C'est un examinateur redoutable.
C'était la manière dont, bien sûr, il y a un coût de l'évitement, mais il y a aussi la façon, combattue bien sûr par l'État et la justice, dont les citoyens s'organisent. Parents vigilants, citoyens vigilants, c'est-à-dire on commence à retrouver l'idée d'une solidarité de fait dans ceux qui sont encore dans les enclaves à peu près protégées et qui tiennent à surveiller les résidences des autres quand ils partent en vacances, ou à faire en sorte d'assurer la sécurité dans les rues au moment de la rentrée
Nantes,
des écoles.
C'est à Nantes qu'il y a ça, effectivement, où pour le coup ils ont créé une sorte de réseau de patrouilles citoyennes, de gens qui sont censés alerter quand il y a des problèmes dans le quartier et qui se baladent donc le soir pour assurer la sécurité, là où l'État effectivement n'est pas là.
Oui, et l'État déteste ça, mais je pense que le meilleur exemple, c'est celui des banquets du Canon français. Les banquets du Canon français, c'est une initiative privée qui vise à offrir un cadre festif à la fois identitaire et sécuriser un certain nombre de gens. C'est purement purement privé, et ça déclenche les foudres et et l'agacement jusqu'au plus haut niveau de l'État. En réalité, le pas de côté ne sera pas permis. C'est-à-dire que la société, pour beaucoup de nos dirigeants, la société multiculturelle est réellement un projet qu'ils veulent imposer de façon totalitaire aux Français, et ils l'imposeront jusque dans les espaces privés. C'est-à-dire que l'illusion qui consiste à dire qu'on pourra se replier dans telle ou telle zone, cette illusion est une illusion. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On sera rattrapé.
Oui, mais on voit que, bon, évidemment, il reste encore quelques coins de France qui sont plutôt préservés pour le moment, hein, bien sûr.
Quand j'avais votre âge, nous disions tous, si ça tourne mal à Paris, c'est pas grave, on ira habiter à Nantes.
Oui, oui, non, mais bien sûr. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dis simplement que encore aujourd'hui, il reste quelques espaces, on va dire, de liberté. D'ailleurs, d'aucuns appellent à la formation de communautés dans ce genre d'espace. Oui. Effectivement, après, encore une fois, comme vous le dites, ce qui est certain, c'est que tant qu'on n'aura pas repris le contrôle de l'État central, ce ne sera plus qu'une question de temps. On voit d'ailleurs que beaucoup se tournent vers l'expatriation comme solution à tout ça. Merci beaucoup Xavier Van Lierde pour cette analyse qui a été d'ailleurs particulièrement appréciée par les auditeurs. Hein. Beaucoup de commentaires très positifs dans le chat. N'hésitez pas à, chers auditeurs, à vous épancher votre soif de bienveillance auprès du chat. Merci d'avoir été avec nous Xavier. On vous dit à la semaine prochaine ici sur Ligne Droite.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Voilà, et je vous signale aussi, chers auditeurs, que si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser vos dons dans le chat sur YouTube. Ça nous permet aussi de vous remercier en direct. Donc n'hésitez pas, voilà, de toute façon, comme l'expliquait brillamment Eric Doutrevente la semaine dernière, eh bien, faites des dons, c'est un bon moyen de flécher votre argent. Et alors Eric Doutrevente, d'ailleurs, que je retrouve, vous êtes fondateur de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante gérant des clients privés. Alors aujourd'hui, vous désiriez nous évoquer un autre leader mondial coté à la bourse de Paris, donc sur Euronext, la société GTT. Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi ?
Alors, GTT est un leader mondial qui est une société d'ingénierie française qui a été fondée en 1994, introduite sur le marché en 2014. Son métier, c'est de concevoir des systèmes de confinement à membrane cryogénique pour le transport et le stockage de gaz naturel liquéfié, le GNL. Ces systèmes équipent les grands méthaniers qui flottent dans le monde entier. Il y a à peu près 750 grands méthaniers qui aujourd'hui se promènent. Et c'est aussi utile pour les réservoirs de stockage à terre du GNL. GTT, c'est une pépite car elle ne fabrique rien. Elle vend sa technologie sous licence et ses revenus, évidemment, viennent des royalties qu'elle va toucher par les chantiers navals et les armateurs pour chaque navire construit avec cette technologie. Donc, c'est un modèle, évidemment, peu de capitaux employés, pas d'usine, pas de stock. Alors, c'est un leader mondial incontesté. Détient alors maintenant plutôt 90% de parts de marché sur les systèmes de membrane, sachant qu'il y avait un concurrent historique qui a arrêté de prendre des commandes depuis 2016. Donc voilà, GTT a la mer libre devant elle. Cette position repose sur un patrimoine de brevets considérable. Il y a à peu près 2150 brevets actifs, 60 nouvelles applications en cours, un budget R&D de 30 millions par an et qui mobilise plus de 100 ingénieurs. Évidemment, j'ai été capitalisé sur 60 ans d'expérience dans les technologies de gaz liquéfié, donc sur les aspects de membrane. Alors, c'est un modèle économique, vous avez compris, exceptionnel, essentiellement des royalties. La marge brute, elle est d'environ 70%, et la marge nette, on est à plus de 50%, puisque, évidemment, la structure de coût est très légère, avec simplement des postes de personnel, les ingénieurs essentiellement, et des charges externes de tests et d'études. Peu d'achats, vous avez compris que l'essentiel, c'est du cash qui rentre dans la société. Alors, c'est une société qui a une présence internationale. Elle travaille avec tous les grands chantiers navals du monde. La production de méthanie est concentrée en Corée du Sud. Il y a à peu près 60 endroits qui construisent des navires, 26 en Chine. Et fin 2026, tout le secteur tourne à plein régime. Les clients finaux sont les grands armateurs, les majeures gazières, et on est sur tous les continents, que ce soit les États-Unis, le Qatar, l'Australie, ou bien d'autres, l'ensemble du monde, évidemment, l'Inde et l'Asie. Alors, ce marché du GNL est en croissance structurelle, car le gaz naturel est reconnu comme une énergie de transition. Il remplace le charbon et apporte de la flexibilité face aux énergies renouvelables intermittentes. La demande mondiale du GNL est donc tirée par tous les pays du monde, essentiellement par l'Asie. Et évidemment, il y a eu pas mal de nouveaux méthaniers qui sont arrivés. Le carnet de commandes, donc je répète, 750 méthaniers sont en circulation, mais le carnet de commandes est à peu près de 450 méthaniers. Alors, il y a une petite diversification dans le système des digitaux pour le maritime, mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est vraiment un leader mondial qui est très bien armé pour le futur, puisqu'il n'a pas de concurrent.
Voilà, et quelques mots introduits en 2014, donc quel est le parcours boursier de GTT?
Alors, en 2014, l'introduction se fait en bourse parce que 40% du capital appartient à GDF Suez, 30% appartient à Total et 30% appartient à un fonds américain. Donc, l'introduction se fait d'une manière tout à fait sympathique. La hausse du titre, alors il faut toujours prendre les dividendes. Donc, le graphe qu'on regarde habituellement, il n'y a pas les dividendes. Les dividendes sont importants puisque c'est une boîte qui distribue beaucoup de cash depuis longtemps. La performance, dividendes compris, est de 700% depuis 2014, avec une accélération l'année dernière, sachant que si on compare par rapport au CAC 40, le total qui est en dessous du CAC 40 est plutôt sur une performance de 250%. Donc voilà, d'abord, une boîte très bien gérée, la transition s'est faite tout à fait normalement du côté des managers de l'année dernière, donc longue vie à GTT, un leader mondial de l'industrie du GNL, donc du gaz naturel liquéfié et le fabricant des membranes.
Merci beaucoup Eric Doutrebande pour votre chronique. On vous retrouve dans une semaine pour la prochaine et tout de suite la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonne journée.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour chers auditeurs. Dans le magazine Challenge, on reparle du projet des États-Unis de quitter l'OTAN pour obliger leurs alliés européens à réinvestir massivement dans leurs capacités militaires. Selon le journaliste Vincent Lamigeon, un rapport d'une trentaine de pages dresse un panorama assez sidérant du chemin à parcourir. Remplacer 128 000 soldats américains, acquérir 400 avions de combat supplémentaires, 600 chars, une vingtaine de destroyers et 6 frégates, ainsi que 2 porte-avions. Montant total, 344 milliards de dollars et beaucoup plus sur le long terme. On le sait, le 1er avril dernier, Donald Trump annonçait déjà le retrait d'Allemagne de 5000 militaires américains. Le mouvement est lancé, probablement inéluctable. Une prise de distance progressive des États-Unis vis-à-vis de l'Allemagne qui oblige l'Europe à une sorte de saut dans le vide, pointe Camille Grand, ex-secrétaire général adjoint de l'OTAN. Et on peut dire aussi que le retrait a déjà commencé. Les États-Unis ont cédé depuis 2026 2 commandements régionaux à des gradés européens, Naples en charge de la zone méditerranée et Norfolk en charge de l'Atlantique. Et puis les grands travaux ont déjà commencé, précise Challenge, sur certains segments clés. L'Allemagne et la France travaillent ainsi sur un système spatial d'alerte avancé. Sur le sujet de la frappe dans la profondeur, par exemple, la France a lancé un projet de mission balistique de théâtre, un armement conventionnel capable de frapper à 2500 km. Une arme dont l'Europe était jusqu'à présent dépourvue. Voilà, c'est à lire dans le magazine Challenge, encore en vente. Dans le Figaro, je vous encourage à lire le très pertinent édito de Vincent Trémollet de Villers sur l'euthanasie et cette fois, cette loi qui devrait être votée à la va-vite. Il l'a appelé dérèglement démocratique et regrette que les deux assemblées soient quasiment obligées à être invitées à voter une loi dans la précipitation. Cette loi n'est pas prioritaire, écrit-il. Dès lors, deux solutions raisonnables, faire de l'euthanasie un des thèmes de l'élection présidentielle ou organiser un référendum. Voilà, c'est à lire en une du Figaro. Et puis, vous avez peut-être vu, lu ici et là, que la princesse Maria Carolina de Bourbon-Sicile, la compagne de Jordan Bardella, s'est rendue au siège de la Légion étrangère à l'occasion de la remise du prix de l'évêché pendant que le festival de Cannes battait son plein. Victoire Riquetti, sur le site Boulevard Voltaire, raconte que ce prix a été créé en 2018 à l'initiative des deux clubs Rotary marseillais en lien avec la police judiciaire de Marseille et Solidarité PJ, l'association d'entraide de la police judiciaire. Ce prix décerne chaque année un ouvrage policier à la condition que l'action se déroule dans le Grand Sud, Corse comprise. D'ailleurs, cette année, les jurés, dont quelques fonctionnaires de police, ont remis le prix à Bernard Minier pour son roman H, paru aux éditions Ixo. Et sur son compte Instagram, la princesse a expliqué qu'au cœur du quartier Viennot à Aubagne, elle a eu le plaisir d'être présente avec son père Charles dans un lieu chargé d'histoire qui s'est conclu par la remise d'écussons aux armes de la maison royale des Bourbons des Deux Siciles et de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges. Le site ajoute que la princesse avait également assisté le 5 mai dernier aux Invalides à la messe d'hommage à l'empereur Napoléon Ier, où elle expliquait son épopée qui résonne encore deux siècles plus tard sous le dôme des Invalides à Paris pour honorer un devoir de mémoire qui nous oblige, je la cite, « grandeur et héritage ». Voilà, cette semaine, je passe 3 jours en Italie et même si à Parme, il fait facilement entre 30 et 34 degrés dans la journée, il ne faut pas oublier que c'est la ville du parmesan sous l'égide du consortium Parmigiano-Reggiano qui compte parmi les fromages les plus anciens et les plus riches du monde. On dit qu'il est produit avec les mêmes ingrédients qu'il y a 9 siècles, au lait cru, présure et sel, et bien sûr avec le même soin artisanal. Et la France est le second pays consommateurs de parmesan après l'Italie, bien sûr, et les États-Unis. Alors, deux magazines consacrent leur thématique à l'Italie gourmande. Le hors-série de Cuisine et Vins de France, fabuleux voyage qui met en avant des recettes abordables et les vins italiens les plus ensoleillés. Sophie Menu, la rédactrice en chef, nous rassure avec cette évidence proclamée à propos de l'Italie. On y mange bien. Cette évidence tient à une attention constante portée aux produits, à leur qualité, à leur saisonnalité. Et ici, la simplicité n'est jamais une facilité, mais un art. Et il faut lire ces pages mettant en avant les produits et le savoir-faire culinaire des Italiens. Une traversée généreuse et authentique où chaque plat raconte une histoire, un terroir, une tradition. Et l'autre magazine qui parle de tradition italienne et cuisine actuelle qui passe ce mois-ci avec Fabienne Aberture au banc d'essai les meilleures pizzas que l'on trouve en France. Alors, dans les grandes surfaces, car on le sait bien, le français est en gros un grand mangeur de pizza. Elle raconte que la pizza margherita, sans doute la plus simple, a été créée lors de la visite au Palais Royal de Naples en 1889 du roi Humbert Ier d'Italie et de son épouse la reine Marguerite de Savoie. Celle-ci l'aurait beaucoup apprécié, qui lui a donné son nom. Et le magazine donne la parole à Denis Job, cet ancien militaire devenu un amateur éclairé de pizza, qui vend ses pizzas dans un food truck dans le Vaucluse et qui vient de sortir un troisième livre sur sa passion, Pizza, pizza et focaccia, 40 recettes conviviales et gourmandes chez Larousse. Enfin, une page sportive maintenant pour parler de Roland Garros et de celui qui est un des favoris pour remporter le tournoi de cette année, l'Italien Yannick Sinner. Il faut lire le portrait qu'en dresse dans Challenge Nicolas Stiel pour comprendre
L'homme de 24 ans qui fut en 2012 vice-champion d'Italie de slalom géant et qui reconvertit dans le tennis, remporta son premier tournoi en 2019 à Bergame. Le journaliste décrit un transalpin mesurant 1m91 pour un poids de 77 kg qui aime servir à deux mains. Il est souvent comparé à un robot. Yannick Sinner, c'est un peu Djokovic en plus jeune et en version augmentée, affirme-t-il. Les matchs entre Alcatraz et Sinner sont aussi intenses que les duels Federer-Nadal des années 2010-2018. Quand il joue en confiance, seul Alcaraz est en mesure de le battre. Conclusion de challenge, une victoire à Paris permettrait à Yannick Sinner de rejoindre la légende Adriano Panatta, dernier vainqueur italien de la Porte d'Auteuil. C'était il y a 50 ans. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.
Zone libre.
Oui, la zone libre, et la zone libre, nous la faisons aujourd'hui avec Louis Rigaudière. Louis Rigaudière.
Bonjour,
et
Magda... bonjour.
Bah oui, oui, vous avez déjà dit bonjour.
Bah oui.
Mais faites gaffe parce qu'il y en a un, il n'a pas dit bonjour, et du coup, bon, bref. Et ensuite, Magda Donnefeuille.
Moi, je serai là pour perturber
déjà dit
simplement.
Bonjour aussi.
Donc, qu'est-ce que vous avez, vous?
Moi, je suis là juste pour perturber.
Ouais, bah,
s'il
vous
y
avez pas mal, là, déjà.
Bah,
parce
voilà.
Que je suis en train de parler,
un point pour moi, et voilà.
Super. Bon, heureusement que vous n'avez pas de caméra, vous, hein, décidément. Si seulement je pouvais vous couper le micro comme vous pouvez le faire pour moi, ce serait magnifique.
Ah, voilà, chacun ses petits privilèges. Vous vous parlez pendant 3 heures et moi je vous vois.
Ouais, voilà, exactement. Et vous avez le privilège de m'écouter en plus.
En plus.
Voilà, quelle chance. Magda Donnefeuille.
Moi je voulais parler d'animaux, mais cette fois c'est beaucoup moins drôle.
Ah, mince.
Ouais, je suis désolée. Non, en vrai c'est vraiment moins drôle. C'est juste qu'on est à quelques heures, je crois, de l'Aïd. Ou quelques jours, dans quelques heures peut-être.
De l'Iliade et... Non, de l'Aïd. Ouais,
Pardon. Oui, non, mais attendez, on va peut-être couper le. Enfin, si voilà, si voilà. Benoît, la technique, on va couper le micro de Franck, enfin, faire quelque chose, je sais pas.
Non, on a des agriculteurs, malheureusement, qui se font voler leurs brebis, et il y a certains agriculteurs qui se sont fait voler jusqu'à 35 brebis par champ.
35 brebis.
Voilà, donc, pauvres petites brebis qui sont en train de se faire kidnapper les unes après les autres.
Ça, c'est l'insécurité est partout. Et
même
chez les
animaux, et on en parlait justement hier, hein, l'insécurité
exactement.
Est partout. Ouais,
exactement. Et vous feriez quoi avec 35 brebis, Louis Rigaudière?
Ah oh là là, me posez pas la question.
Du fromage.
Fromage,
je ne saurais pas
vous
quoi.
Vous serez du fromage, Franck.
Oui, du fromage. Oui. D'ailleurs, excusez-moi, je suis allé en Ardèche-Lozère là, pendant les 4 jours. Et bien, avant, il y avait beaucoup de moutons.
Pendant nos vacances, donc.
Mais non, non, mais c'est pas pour parler de mes vacances. Mais
non, mais c'était
pourtant,
les nôtres aussi, du coup.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Vous allez bien profiter. Vous avez le temps à aller depuis que vous êtes. Et il y avait très très peu de moutons dans les montagnes, alors que j'y habitais pendant longtemps quand j'étais tout petit, et j'ai l'impression qu'il y a moins de moutons dans les montagnes, il y a moins de bergeries, moins de moutons, donc je ne m'explique pas cette affaire.
Et c'est peut-être, oui effectivement, alors je ne sais pas si en Lozère...
Peut-être qu'on va se reconvertir professionnellement.
Oui, tout à fait, c'est peut-être ça votre destinée, peut-être pour votre retraite qui arrivera, déjà qui devrait être le 4 depuis 30-40 ans.
C'est ça.
Bon, après c'est tout le mal que je me souhaite.
Hein, voilà, exactement. Bon, Louis Rigaudière, on va quand même vous laisser une minute 30 pour...
Merci, c'est très gentil.
Voilà.
Non, mais parce que j'arrive à une information très importante, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait très chaud aujourd'hui. Il fait très chaud ce matin, surtout. Et visiblement,
voilà,
ça ne redescend pas.
C'est l'enfer, on en vient pas à la météo. Là,
Radio Courtoisie, première sur l'info. Hein, écoutez, hein. Et non, et parce que hier, en rentrant chez moi, j'ai été témoin d'une scène d'un fléau qui envahit les grandes villes. Et c'est ces bouches à incendie qui sont ouvertes de manière totalement anarchique, hein, par des jeunes. Et voilà, par des jeunes avec de grosses guillemets, évidemment. Et évidemment, j'ai un petit peu creusé les risques que ça peut provoquer. Ce genre de choses, évidemment, ils le font pour se rafraîchir. Et en l'occurrence.
Une fine analyse, lui.
Une fine analyse, voilà, mais le problème, c'est que ces bouches à incendie ne sont absolument pas faites pour ça. Et qu'évidemment, alors, outre le risque physique direct pour eux, parce que le jet est extrêmement puissant et peut provoquer des blessures graves, évidemment, l'ouverture de ces bouches à incendie réduit fortement la pression sur les canalisations alentour, qu'elle empêche les pompiers d'intervenir efficacement en cas d'incendie, donc super. Coupure ou faible pression d'eau potable pour les riverains, donc ça, voilà, donc c'est vraiment les conséquences sont assez énormes. Ça inonde les rues et ça inonde évidemment les caves, les sous-sols et tout ce qu'il y a dedans. Et évidemment, à l'intérieur, on trouve des boîtiers électriques et tout ce qui va avec. Donc, il peut y avoir des coupures de courant. Et donc, c'est évidemment, outre aussi l'aspect écologique qui est absolument colossal avec des gaspillages de milliers de tonnes d'eau. Et donc, voilà, donc c'est évidemment à déconseiller parce que les sanctions sont assez lourdes. Si vous vous faites prendre, vous risquez une peine de 75 000 euros d'amende et quelques années de prison.
Et Louis est prêt pour BFM TV maintenant.
Oui, exactement. Voilà, non, mais, ou alors, c'est... pour faire peut-être la présentation de Météo France, peut-être.
Ah, je serais pas mal dans l'exercice, on pourrait peut-être essayer.
Non, mais merci, vous, voilà, les bornes à incendie inondent nos rues et vous nous inondez de vos analyses. Merci, Louis Rigaudière, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Magda Hautefeuille. Et merci même à Franck. Voilà, je vais être généreux ce matin. Merci à vous, chers auditeurs. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Merci à vous d'avoir été présents. Simplement, eh bien, nous avons besoin de vous garder quelques instants pour vous faire passer un message.
Alors, quelques secondes, car nous sommes très en retard ce matin. Soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne, un don à Radio Courtoisie. Je notais bien l'adresse, soutenir.rc.fr. Et un grand merci d'avance à vous tous.
Voilà, merci Franck. Et tout de suite, on écoute le bilan de Gabriel Attal à l'Éducation nationale avec le député RN Roger Chudeau.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons parler de Gabriel Attal. Nous allons parler de Gabriel Attal car il a déclaré sa candidature officiellement eh bien, ce week-end pour l'élection présidentielle. Alors la question c'est évidemment, Gabriel Attal nous explique que la grande cause de son quinquennat serait l'éducation. Il a été effectivement ministre de l'éducation nationale, on le rappelle, entre 2023 et 2024. Il a également été premier ministre. A-t-il mis ce sujet eh bien, sur le devant de la scène? A-t-il eu de bons résultats? C'est la question que nous allons nous poser avec Roger Chudeau, député du Loir-et-Cher, spécialiste des questions d'éducation pour le Rassemblement National. Bonjour Roger Chudeau.
Bonjour monsieur.
Alors, la première question que je vais vous poser déjà, c'est peut-être plus sur le bilan d'Emmanuel Macron en général. On connaît eh bien, la chute qu'on a eue au classement PISA ces dernières années. Et surtout, on peut remarquer quelque chose, c'est que alors que effectivement la question de l'éducation a souvent été mise au centre dans les discours, on a quand même eu 8 ministres de l'éducation nationale en 9 ans, plus particulièrement depuis 2022 où tout s'accélère. Pour rappel, hein, on a eu Pap Ndiaye, Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra, Nicole Belloubet, Anne Genetet, Elisabeth Borne, Édouard Geoffrey. Ça fait quand même un sacré paquet de ministres. Est-ce que finalement, depuis Jean-Michel Blanquer, on n'est pas dans une forme d'instabilité sur la question de l'éducation?
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et s'il y a bien un ministère qui aurait besoin de stabilité et de continuité, c'est le ministère de l'Éducation nationale, puisque le temps éducatif est le temps long. N'est-ce pas ? Contrairement au temps politique, qui est un temps court et haché. Donc là, effectivement, le bilan d'Emmanuel Macron, qui avait fait de ces deux quinquennats, enfin, qui avait placé dans ces deux quinquennats la jeunesse au centre de ses préoccupations et de sa politique, ce bilan est désastreux. Je veux dire, tout le monde s'accorde à dire, gauche, droite, centre, bref, tout le monde s'accorde à dire que l'école française, que l'école de France est en plein déclin, qu'elle est en train de s'effondrer sur elle-même, que tout va à volo. Et ceci est le résultat, non seulement de cette instabilité ministérielle, qui n'en est au fond qu'un symptôme, mais surtout de l'incohérence totale des mesures qui ont été prises et de l'absence totale, mais vraiment radicale, de vision pour l'école de France.
Alors, ce qui est assez effectivement intéressant à ce titre, c'est que ce qu'on peut observer, c'est que Gabriel Attal, quand il arrive au ministère de l'Éducation nationale, il remplace Pap Ndiaye. Pap Ndiaye, donc, qui est évidemment largement critiqué pour ses positions assez à gauche sur bien des sujets. Et alors, une des premières choses que fait Gabriel Attal pour la rentrée, c'est par exemple interdire l'abaya et le camis. Alors, mesure plutôt positive, finalement, en termes de laïcité.
Certes, oui. Enfin, écoutez, Gabriel Attal, c'est avant tout un communicant. C'est un animal politique, n'est-ce pas, qui a bien compris que n'existe aux yeux des gens que ce qui paraît exister. Et ce qui paraît exister, c'est ce que définit le discours politique, la communication politique. Ça, il a bien compris et il ne fait que cela, au fond. Hein. Gabriel Attal annonce, dans l'Aubrac, je crois, sa candidature à l'élection présidentielle. Bon, ça fait sourire parce que, franchement, vouloir imiter Jacques Chirac tapotant le cul des vaches dans l'Aubrac, quand on vient des beaux quartiers de Paris et qu'on n'a pas la moindre idée de ce qu'est un agriculteur ou l'agriculture, on sent bien que c'est de la com à l'état pur. Bon, il en profite pour annoncer que l'école sera sa priorité des priorités. Bon, très bien. Alors tout le monde considère maintenant que l'école est la priorité des priorités, après l'avoir détruite ou abandonnée à elle-même. Comment s'appelle-t-il ? Édouard Philippe a dit la même chose, et depuis longtemps. Bruno Retailleau aussi, etc. Bon, tous ces gens-là courent après l'opinion publique, et le bilan, il faut regarder les choses objectivement. Gabriel Attal a été ministre 6 mois, enfin, son bilan, c'est rien, à part des annonces. Alors, sur l'abaya, je réponds à votre question. Sur l'abaya, c'était très bien, sauf que la circulaire sur l'abaya n'est que l'application de la loi de 2004, c'est tout. C'est une circulaire d'application. Mais vous avez raison, par rapport à Papandiaï, qui est un wokiste distingué, si j'ose dire, il y a eu un changement et ça a porté dans l'opinion publique. Immédiatement, Gabriel Attal s'est construit, là, par cette simple mesure administrative, une image d'homme décidé, de réformateur, de défenseur de la laïcité, etc. Bon, écoutez, c'est très bien, c'est un point de marqué. D'ailleurs, nous demandions évidemment depuis très longtemps cette circulaire interdisant la baïa et d'ailleurs tous les signes pouvant rappeler quelques religions que ce soit dans l'enseignement public. Bon, on ne peut pas dénier à M. Attal un certain sens politique. Mais enfin, bon, ça ne fait pas une politique éducative, ça, si vous voulez. C'est juste, au fond, presque du maintien de l'ordre.
Et parce qu'en fait, on discutait hier à cette antenne également du film L'Abandon, donc sur la mort de Samuel Paty. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'apparemment, au sein de l'éducation nationale, il y a quand même eu des progrès sur ces 6 dernières années. Cela étant, on sait que, aussi que, eh bien, on est quand même toujours un peu soumis à ce pas de vague, à cette crainte d'être taxé d'extrême droite dans l'éducation nationale. Là-dessus, la mentalité de fond n'a pas forcément changé.
Non, bien sûr, moi je ne vois pas de progrès, franchement, ni dans la... Enfin, écoutez, Gabriel Attal a décrété, si je puis dire, le choc des savoirs, oui. Quand il était Premier ministre, le choc...
On va y revenir.
Bon, ce sont des phrases creuses, évidemment, ce sont des slogans publicitaires, c'est du packaging, comme disent les anglo-saxons. Donc, là-dessus, en termes de formule, tout va très bien, sauf que dans la réalité, il se passe absolument rien. En quoi la violence scolaire a-t-elle baissé depuis le passage de Gabriel Attal jusqu'à aujourd'hui? En rien, au contraire. Il y a pratiquement tous les jours des incidents, des menaces. On trouve des couteaux dans les sacs des élèves, des professeurs sont menacés, poignardés, à plusieurs reprises. On a eu ce genre d'incident, n'est-ce pas? Donc le choc d'autorité n'a absolument rien produit. Quant au choc des savoirs, alors là...
Justement, revenons-en au choc des savoirs. Ça, pour le coup, c'est la grande formule, pour le coup, de Gabriel Attal. Donc, il part du constat qu'effectivement, les résultats baissent. Pour le coup, il dit que voilà, il va faire un nouveau programme, prendre la méthode de Singapour, voilà, et qui va, en réalité... De rendre le brevet obligatoire pour accéder au lycée. Est-ce que tout ça, toutes ces nouvelles exigences, entre guillemets, ont eu lieu?
Non, bien sûr. Rien de tout ça n'existe, hein, franchement. Oui. La méthode de Singapour, c'est très bien. Pour les Singapouriens, ça n'a pas été adapté en France, d'ailleurs, ni étudié en France par le ministère. Il devait y avoir des groupes de niveau qui ensuite, pour des raisons de politiquement correctes, ont été rebaptisés « groupe de besoin ». Bon, un groupe de niveau, un groupe de besoin, c'est un groupe d'élèves qui, au sein d'une classe, enfin, on procède, si vous voulez, au regroupement des élèves en fonction de leur niveau, de leur capacité, etc., de manière à pouvoir traiter ces difficultés correctement. Bon, c'est une formule qui existe, honnêtement, depuis au moins 30 ans. Hein. Bon, la gauche a trouvé ça épouvantable, d'ailleurs. Elle a fini par avoir la peau, si je puis dire, de ces groupes de niveau, puisqu'ils ne sont... Maintenant, ils sont devenus facultatifs, c'est-à-dire, en fait, ils ne sont pas appliqués. Oui, bien sûr. Et donc, l'idée était plutôt bonne, en effet, mais elle a été abandonnée en race campagne par les nombreux successeurs de Gabriel Attal. L'examen d'entrée en seconde, qui est une mesure RN, a disparu du paysage, on n'en parle plus, n'est-ce pas, j'ai terminé. Allons sur le fond, si vous voulez. Gabriel Attal s'est rendu compte, lorsque les résultats de PISA ont été publiés, que le système éducatif était en train de dégringoler, hein, de sombrer même. Bien, il s'est produit la même chose en Allemagne il y a quelques années, c'était le choc PISA dans les années 2000. Les Allemands ont profondément réformé leur système éducatif. Nous n'avons rien fait, Attal n'a rien fait, parce que l'origine de la dégradation des résultats de nos élèves est beaucoup plus profonde que la simple existence ou non d'un groupe groupe de niveau ou d'un examen de passage. C'est beaucoup plus profond, c'est le collège unique qui dysfonctionne totalement. Il dysfonctionne totalement parce qu'il est basé sur des postulats qui sont faux. C'est-à-dire qu'on pense que les professeurs peuvent faire de la pédagogie individualisée et différenciée dans une classe de 24, 25 ou 30 élèves. Ça n'est pas possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a baissé le niveau, n'est-ce pas? Et évidemment, quand on baisse le niveau et qu'ensuite on passe des tests internationaux, ben, on n'est pas au niveau. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut réformer le collège, c'est-à-dire faire des établissements autonomes. Il faut réformer la pédagogie, revoir les programmes. Là aussi, il était question de revoir les programmes. Attal avait annoncé ça. Bon, c'est en cours, mais enfin, c'est fait mollement.
Et puis, dans tous les cas, ce ne sera pas fait d'ici la fin de l'année. D'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron.
Bien sûr que non. Ouais. Tout cela, c'est de la poudre aux yeux.
Mais en fait, ce qui est assez fascinant dans ce que vous décrivez, c'est qu'effectivement, Gabriel Attal, à part, mettons de côté le sujet de l'abaïa, où là, il y a eu du résultat concret, mais sur tout le reste, effectivement, c'est énormément d'annonces. Alors que pour le coup, d'ailleurs, on en parlera dans quelques instants sans doute, mais à l'heure de l'intelligence artificielle, vous travaillez justement sur ce sujet au niveau de l'éducation. À l'heure où effectivement, on a cette chute drastique du niveau, on a l'impression qu'il faudrait, pour le coup, vraiment un grand chantier qui dure, mais même sur plus que 5 ans, en fait. Là, on a l'impression que c'est du travail qui doit se faire sur des années pour des décennies.
Tout à fait, vous avez raison. L'éducation nationale, c'est une sorte de cathédrale incendiée, pour reprendre une image que tout le monde comprendra. Il faudra des années pour la reconstruire, mais nous, au Rassemblement National, nous avons un projet, un programme qui permettra, en agissant sur certains leviers, déjà d'obtenir des résultats durables, n'est-ce pas ? Par exemple, nous allons reprendre complètement la formation initiale du corps enseignant, qui actuellement est confié à l'université avec des résultats lamentables, puisque, un, le niveau académique a chuté, et deux, la préparation à l'emploi est insuffisante de l'aveu même des jeunes professeurs, par exemple. C'est un exemple. Nous allons, comme je vous le disais à l'instant, réformer le collège, supprimer le collège unique, faire un collège modulaire, c'est-à-dire qui permettent aux élèves, en fonction de leur potentiel, de leur capacité, de leur souhait, de leur désir d'orientation, de trouver chaussures à leurs pieds.
Mais là, on vous accuse d'être contre, c'est ce que dit la gauche à chaque fois, c'est que vous accuse d'être contre les universités, d'être contre l'enseignement supérieur, justement, en voulant orienter les jeunes, dès le début, vers des métiers sans éducation. En fait, vous seriez contre l'éducation, justement.
Oui, écoutez, franchement, dire que nous serions contre l'université n'a aucun sens. Je veux dire, l'université française existe, elle est efficace quand elle sait s'organiser et quand elle agit dans l'intérêt national, elle est inefficace lorsqu'elle fait de la politique, de l'idéologie, etc. Donc ça, c'est un autre sujet. Nous pensons également qu'il faudra revoir un certain nombre de choses dans l'enseignement supérieur et la recherche, incontestablement. Mais enfin, bon, nous accuser d'être anti-université, ça, c'est absolument grotesque. Non. Là, en l'occurrence, je parlais de la formation initiale des professeurs qui est assurée par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, qui sont des instituts universitaires. Et nous voyons le résultat. Oui. D'ailleurs, la dernière réforme en date sur la formation initiale des professeurs, qui conduit à les recruter à Bac plus 3, ne nous satisfait absolument pas. On a encore baissé de niveau.
Justement, alors, un point qui est lié à ça, c'est que Gabriel Attal a été largement critiqué pour avoir baissé le budget de l'éducation nationale. Vous souhaitez quand même faire des économies au niveau du budget global. Est-ce que l'éducation nationale, c'est un point sur lequel vous mettriez plus de fonds ?
Pour nous, l'éducation nationale est une priorité, mais ce n'est pas un vain mot. C'est-à-dire, c'est une priorité dans la mesure où ce qui va se passer dans l'école ces prochaines années engage le pays pour plusieurs décennies. C'est-à-dire un élève qui rentre à l'école aujourd'hui, il sera opérateur, il sera citoyen, il sera agent économique, il sera engagé dans la vie publique dans 20 ans ou 30 ans. Et donc c'est un investissement, c'est pas une dépense l'école, c'est un investissement. Certes, c'est un investissement lourd, mais c'est un investissement d'avenir. Donc nous n'avons aucune espèce d'intention de raboter, de quoi que ce soit, comme le prévoit déjà M. Geffray, n'est-ce pas, en se disant chic, il y aura moins d'élèves, donc il y aura moins de profs, on va pouvoir baisser le budget. Ce n'est pas notre conception des choses. Il y aura moins d'élèves, c'est certain, et ça, c'est une question démographique et enfin, plus profonde qu'on l'imagine.
Oui, qui se travaille encore plus sur long terme, quelque part.
Voilà, exactement, hein, mais avant de remonter cette pente-là, il faudra plusieurs décennies. Mais il n'y a pas d'effet d'aubaine, il ne s'agit pas que les budgétaires se frottent la main en disant « chic, 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 on va pouvoir supprimer des postes ». C'est pas ça. Nous allons calibrer les choses correctement et nous allons utiliser les marges de manœuvre que nous donne précisément cette baisse démographique pour faire de la qualité. Mais on ne fait pas de la qualité uniquement en rajoutant des professeurs. On fait de la qualité en organisant différemment l'éducation, parce que c'est son organisation qui est en cause. C'est le système qui dysfonctionne.
Merci beaucoup Roger Chudeau d'avoir été avec nous ce matin, à la fois pour rappeler l'importance de ce chantier, et puis d'un autre côté effectivement pour rappeler quel est le bilan de Gabriel Attal, comme dirait Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien.
Exactement.
Voilà, sans doute. Mais merci d'avoir été avec nous ce matin, et puis on vous retrouvera sans doute effectivement d'ici peut-être fin juin pour parler de cette mission sur l'IA, peut-être un peu plus en détail. Avec merci plaisir. Roger Chudeau, à bientôt.
Avec plaisir, merci beaucoup, au revoir.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Et comme nous approchons des 10h, nous approchons aussi la fin de cette matinale. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous ce matin. Mais quel meilleur moyen pour nous remercier que de traduire les mots par des actes.
Voilà, et les actes sont assez concrets. Hein. Il nous faut de l'argent pour poursuivre l'aventure de Radio Courtoisie, pour poursuivre notre combat et notre défense de vos idées. Un seul moyen, puisque vous êtes les seuls financiers, eh bien, c'est de nous rejoindre sur soutenir.rc.fr et de faire un don en fonction de vos moyens. Soutenir.rc.fr, un grand merci d'avance.
Voilà, et quel sera le programme du jour, Franck ?
Restez bien avec nous dans quelques instants, quelques secondes, même l'expérience de mort imminente, le témoignage de Laurence Trochu sur ce qu'ont vécu son fils et ses proches. À midi, le libre journal du Nouveau Monde d'Evelyne Josselin. 14h, la tête hors de l'eau de Catherine Rouvier. 16h, les répliques du Nouveau Conservateur, dirigé aujourd'hui par Guillaume de Thieulois. À 17h30 ensuite, Restons Courtois avec Arthur de Vatrigan. Aujourd'hui, bienvenue dans la postmodernité. 19h30, le libre journal du droit et des libertés d'Olivier Tournafond. Et à 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer.
Voilà un bien joli programme. Et nous, on vous dit à demain, chers auditeurs, à demain avec plusieurs invités, notamment Fabien Bouglé, mais également Grégoire Pupinck et Jean-Yves Le Gallou pour traiter de bien des sujets différents. Moi, je vous dis donc à demain 7h.
À demain, bonne journée à tous. We'll